Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour. Dans cette 14e émission, nous allons vous lire deux nouvelles extraites du numéro 21 des Refusés qui tournaient autour du thème « L'effet papillon ». La première est de Sophie Cataneo, une auteure nancéienne qui a participé à de nombreux numéros de la revue, adepte des concours de nouvelles sous contrainte, c'est-à-dire avec un thème ou une phrase imposée. Elle a publié un recueil de haïku intitulé « Poèmes qui japonais » aux éditions Kairos. Voici donc « À bon chat, bon rat » de Sophie Cataneo.
Dans leur classe, les enseignants ont leur bête noire. Mais il ne s'agit pas, comme on pourrait le croire, uniquement des cancres et des chahuteurs. Non, non. Il y a aussi et surtout le petit emmerdeur de base qui passe son temps à vérifier sur Google les informations qu'on lui fournit. Oui, remet en cause la pertinence du cours, cherche à anticiper sur un programme qu'on a soigneusement structuré et tente par tous les moyens de vous déstabiliser. Ce petit fouille merde ne lâche rien et n'essaye même pas de se faire aimer du prof. La présence d'un seul de ces spécimens est plus pesante que celle d'un inspecteur académique, c'est dire. Aucun répit. Et même quand il la mérite, ça vous donne mal au ventre de lui mettre une bonne note. Quentin est de ses élèves. Et Bénédicte Lemoine a toutes les peines du monde à dissimuler l'animosité qu'il lui inspire. Pour conclure un cycle sur les fables de Jean de La Fontaine, avec sa classe de 5e B, elle a prévu aujourd'hui de consacrer une séance à évoquer avec les préadolescents les principes de la sagesse populaire et les dictons.
Pourriez-vous me citer des proverbes ?
Une forêt de mains levées s'agite alors devant elle.
Oui, Lucie, je t'écoute.
Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas.
Bien, mais celui-là, nous l'avons étudié dans la fable. Peut-être en avez-vous entendu d'autres en dehors des cours.
Puis, s'adressant à son habituel enquiquineur qui s'agite sur son siège, en moulinant du bras...
Oui, Quentin, tu as un autre exemple, j'imagine.
Le nez rouge et enflé, Quentin s'explique.
C'est pas sûr qu'un tien vaille mieux, madame. Puisque, comme dit ma grand-mère, chose promise, chose due.
Le voilà qui commence à l'agacer. Ah, c'était prévisible. Ce gosse est pénible. Et même malade et enfiévré, il la ramène toujours.
En effet, mais je crois que ce que voulait nous faire comprendre La Fontaine, c'est avant tout qu'il ne faut pas renoncer à ce qui est acquis dans l'espoir d'avoir davantage par la suite. Quelqu'un d'autre ?
Elle désigne alors un frêle garçonnet, pâle, au milieu de la masse grouillante de la salle.
Vas-y Antoine, dis-nous tout.
Moi, mon père, il dit que bien mal acquis ne profite jamais.
Sans que Madame Lemoine l'y ait autorisé, Quentin intervient de sa voix enrhumée.
Sauf que la fin justifie les moyens, et même que l'argent n'a pas d'odeur.
Passablement irrité, la prof de français commence à perdre patience.
Quentin, je te prie de lever le doigt pour que je t'autorise à intervenir. Certes, on dit ces choses. Certains adages prônent l'honnêteté, tandis que d'autres versent dans des principes plus discutables. Vous pouvez constater que les deux sentences coexistent selon des points de vue différents.
Bénédicte Lemoine est agacée, mais elle fait bonne figure. Le cours s'annonce mouvementé.
Si je vous dis « prudence et mère de sûreté », À quoi cela vous fait-il penser ?
Du tac au tac, Quentin réplique en nasillant.
Que qui ne risque rien n'a rien, et qu'il faut se jeter à l'eau.
Quentin, premier avertissement.
Assène-t-elle en ravalant un reflux gastrique tout en pensant « Bien vu, espèce de vilain petit cloporte !»«
Pardon, madame. »
Soudain, Noémie se manifeste et madame Lemoine l'invite à prendre la parole.
« Madame, doit-on considérer que les contraires s'attirent ou que qui se ressemble s'assemble ? Où est la vérité là-dedans ?»
Eh bien, je suppose que les deux maximes sont justes, selon qu'on aura constaté l'un ou l'autre de ces cas.
Contre toute attente, l'heure de cours commence à prendre une tournure insolite. L'enseignante n'avait pas prévu que Quentin provoquerait ainsi toute la classe et elle-même dans une joute verbale. Alors, à présent, elle se détend. Et arbore un petit sourire en coin.
Nous allons faire un petit jeu. Je vous propose de trouver, à l'instar de Quentin, des proverbes qui s'opposent et que se contredisent. N'est-ce pas amusant, Quentin ?
Souvent, ma femme varie, bien folle qui s'y fie.
Articule-t-il péniblement entre deux éternuements. Ah, Bénédicte ne cache pas son exaspération.
Je te félicite de citer François Ier. Mais puisque ce que femme veut, Dieu le veut, j'attends vos réflexions. Allons-y.
La nouvelle consigne semble inspirer les élèves, qui s'empressent tous de pointer leurs doigts en l'air.
Oui, Édouard, tu as quelque chose à nous dire ?
Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais abondance de biens ne nuit pas.
Oui, il y a de l'idée. Mais il me semble que ces deux préceptes ne sont pas tout à fait contradictoires. Dans le même registre, on dit aussi que plaie d'argent n'est pas mortelle. Quelqu'un d'autre ? Vas-y, Kevin.
Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Sauf pour la vengeance, parce que la vengeance est un plat qui se mange froid.
Oui, bravo, c'est très juste. À toi, Émilie, je t'écoute.
Il ne faut pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et pourtant, la nuit porte conseil, alors que faire au juste ?
Excellent, Émilie. Ainsi, ce sera la situation donnée qui déterminera la meilleure option à choisir. Firmin, à ton tour ?
La possible lunette nue. Mais pourtant, à cœur vaillant, rien d'impossible.
Pas mal du tout, Firmin. Même si le cœur vaillant n'est pas tenu à l'impossible. Disons qu'il est tout simplement capable d'y parvenir par sa volonté propre.
Ce petit boulet de Quentin semble boudé et la ramène plus. À l'issue de ces échanges animés, il est donc déjà temps pour Bénédicte Lemoine d'improviser une conclusion au débat qui s'est pas déroulé tout à fait comme elle l'avait planifié. Mais Quentin avait voulu lui pourrir sa leçon, au lieu de ça, il l'avait enrichi de manière surprenante.
Allons, vous avez bien compris que les dictons peuvent nous faire dire tout et son contraire. Vous aurez tout le temps d'aborder la rhétorique quand vous étudierez la philosophie en classe de terminale. Pour le moment, je vous suggère de vous efforcer de bien connaître les maximes afin de vous les approprier et de pouvoir vous créer vous-même votre propre manière de penser. C'est tout pour aujourd'hui.
En quittant la salle, déçu que sa tentative de sabotage ait tourné à l'avantage de l'enseignante, Quentin passe devant Bénédicte Lemoine, tête baissée, expectorant le contenu de ses sinus dans un mouchoir en papier tout fripé, tandis qu'elle ne peut s'empêcher de marmonner à son passage.
Qui se sent morveux, se mouche.
Thank you.
quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Cette nouvelle était accompagnée d'un morceau intitulé « Le festin de la Goulue » de Pierre Zimmer, un musicien que vous devez commencer à bien connaître si vous suivez nos émissions. Nous allons à présent enchaîner avec un court texte, extrait du numéro 25 de la revue, écrit par le photographe Dominique Tibéri pour faire écho à sa série de photos sur les friches de l'Orebourg, l'usine à confiture de Liverdun.
Il est échoué là, au creux d'une volute de Moselle, face au vieux pont de chemin de fer qui mène les trains à Paris. De la proue, on peut encore y voir l'esquisse d'une arche de l'ancien pont canal. Mais c'est au pied du château de Corbin, qui fit l'art nouveau à Nancy, que ses chaudières ont cessé de fumer. Monsieur Lerebourg, plus de navires, plus de drapeaux français, ni trois cheminées, ni Normandie, ni France. Oui, plus de doigts dans la confiture. Au diable, les vergers de Lorraine, le bateau ne sera plus jamais ivre d'effluves, de pommes chaudes ou de mirabelles.
Ça tourne au son de la boîte à frissons qui vous chavire, aimez vos cœurs à l'unisson. Un, deux, trois, ça souffle et les boutons s'affolent dans une vaste folle où seul le roi de la fête est notre accordéon. À toi, cher Marcel, qui enflamme à Brenne, à Joe, à Gus ou bien à Richard. À tous les fidèles, du piano à bretelles, à la chanson de Gainsbourg. Ça tourne, je sais, de la place au vieux Léon qui fut le roi d'accordéon.
C'était le morceau 1, 2, 3 de mes amis du Jasno Quintet, animé par l'accordéoniste Marianne Perrault, que j'avais choisi pour accompagner ma lecture des Friches de l'Erebourg. Poursuivons maintenant avec une nouvelle, également publiée dans le numéro 21 des Refusés. Mariage pluvieux de Benoît Fourchard, un auteur nancéen que nous avons déjà présenté. Auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, de scénarios, de romans, pour un public adulte mais également jeunesse. Ah, petite précision, ces jours-ci sort en librairie Les baskets du Père Noël aux éditions Jasmin, un roman jeunesse que Benoît destine aux enfants à partir de 10 ans. Là, c'est la musique de Godzilla de Théo Clou qui introduira la lecture de Mariage pluvieux.
Audrey, Lucas, vous voici donc unis par les liens du mariage.
Frémissements, yeux mouillés, alliances, applaudissements. Juste derrière elle, le reniflement caractéristique et un peu bruyant de sa mère. Ah, elle a beau être la quatrième, l'émotion maternelle ne s'amenuise pas. Et ça va être pire tout à l'heure à l'église, ça, elle le sait. Conciliante, Audrey a accepté d'emblée le protocole proposé par ses parents. Bon, et il faut dire que celui suggéré par les parents de Lucas, sauciflard bonne franquette, était inconcevable pour Philippe Delannoy, directeur général du consortium immobilier Delannoy, frère, et François, son épouse. Déjà, il avait fallu consentir à voir leur fille, bientôt juriste d'affaires, entichée d'un simple pompier. Heureusement que Lucas avait su se montrer séduisant. Humour, belle prestance et sourire franc.
Et puis, nous ne sommes pas des parents si vieux jeux.
Bien sûr que non, Françoise, bien sûr que non. Et pompier ou pas, pour notre Benjamin, la fête sera grandiose.
Pourtant, 6 mois plus tôt, Audrey ne connaissait pas Lucas. Un soir, Audrey et Hélène, colocataires et meilleures amies, sont en pleine révision. Soudain, la sonnette de l'entrée, insistante. Audrey maugrée, mais finit par aller ouvrir. C'est Madame Mougeot, la voisine toute fripée. Madame Mougeot, à cette heure-ci? Audrey, je me sens pas très bien. Pas un mot de plus, elle s'effondre dans l'entrée de l'appart. Hélène, merde, vite, vite, appelle le 15. Un quart d'heure plus tard, ils sont là, médecins, infirmiers, pompiers, et tentent de réanimer la vieille dame. Ça dure longtemps. Tous s'affairent ou regardent, visage tendu. Audrey, elle, ne parvient pas à détacher ses yeux de ce grand gaillard souriant, rassurant, efficace. Le type s'en aperçoit. Et pendant les soins prodigués par les médecins, griffonne son 06 sur un papier qu'il tend discrètement à Audrey en lui disant simplement
« Moi, c'est Lucas. »
C'est précisément à cet endroit-là que Madame Mougeot rend l'âme.
« Allez, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Appelle-le !» lui dira Hélène le lendemain. Avec Madame Mougeot qui vient juste de... Tu crois pas que... Vas-y, je te dis.
Depuis longtemps, Audrey a un faible pour les pompiers. Et Hélène le sait très bien. Un faible qui a commencé au CP lorsqu'un grand de CE2 l'avait poussé à la récré. Elle n'avait pas pu se relever, elle a la jambe cassée. Alors le directeur avait prévenu les secours. Et un immense pompier à moustache l'avait soulevé comme une plume. À cet instant-là, elle n'avait plus eu mal du tout. Alors, elle l'appelle, puis...
On se voit ?
On se voit.
Et sans attendre, voilà Audrey, si menue, comme un jouet dans les bras puissants de Lucas, tête et corps en vrac. En quelques semaines, l'évidence s'impose. On peut maintenant se présenter nos meilleurs amis. Bon, Hélène, qu'on connaît déjà, Thomas, son copain, d'autres amis étudiants. Côté pompier, voici Marc, Le supérieur de Lucas, un peu plus âgé, un peu plus gradé, célibataire, revendiqué. Très sympa, très sûr de lui et de son sex appeal. Et puis Kevin et Loris, ses autres collègues. Les milieux se mélangent plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer.
Maintenant, il ne reste plus qu'à nous marier ?
Rien d'obligé, mais si tu y tiens vraiment, moi, je veux bien.
Audrey découvre alors la famille Gosselin. Les parents, Sylvie et Jackie, les jeunes sœurs Sandra et Laurine, des jumelles délurées, l'appartement HLM. Chez les Delannoy, la présentation est un peu plus cérémonieuse, avec une première réaction plutôt réservée des parents, puis un lâcher-prise face aux souvenirs, au sourire désarmant, l'allure et le potentiel héroïque et érotique du fiancé. Françoise et Philippe l'adoptent aussitôt. En y regardant de plus près, on pourrait presque apercevoir quelques étoiles s'allumer dans les yeux gris-bleus de Françoise.
À peine Audrey et Lucas repartis, on pourra imaginer le questionnement des parents à propos de ce garçon, de la modestie de sa famille, de ses mérites, de son intelligence, de sa carrière à venir.
« Moi, je le verrai bien, colonel, » dirait Philippe.
La date du mariage est fixée. Ce sera le 30 juillet, dans la propriété des parents de Françoise à la campagne. Et surtout, « ne vous inquiétez pas, monsieur Gosselin, nous prendrons en charge l'organisation de tout ça. »«
Monsieur Delannoy, vous nous mettez dans la gêne, » dira Sylvie. « Ne vous en faites pas, voyons, nous avons l'habitude, » ajoutera Françoise, avec un sourire presque condescendant.
« Et donc voilà, nous y sommes. Tout est sous contrôle. La seule véritable incertitude... c'est la météo. Il y aurait, paraît-il, une légère menace d'orage en fin de soirée.
Vous savez, c'est tout de même notre quatrième mariage, rappelle Françoise, et sans jamais la moindre goutte. Comptons donc sur notre chance habituelle. De toute façon, comme on dit, mariage pluvieux, mariage heureux.
Ajoute la tante Jeanne, 95 ans au compteur.
Oui, 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 mais quand même, hein, la flotte, ça pourrait bien gâcher la soirée.
Répond l'oncle Raymond, oiseau de mauvais augure, irascible et très, très adroite, et qu'on eut bien du mal à caser dans le plan de table.
Justement, le plan de table. Un vrai casse-tête. Il aurait fallu tenir compte des âges, des générations, des affinités, des détestations, hein, des conflits ancestraux pour trouver le subtil équilibre entre famille et belle-famille, sans ostentation ni entre soi. Prévoir une table d'anciens sans froisser les entre-deux âges, une table pour les enfants sans vexer les pré-ados, une table de grands ados, hein, sans mettre la honte aux jeunes adultes. Concevoir un menu aussi, pas trop tape à l'œil, mais pas trop modeste non plus. Il faut ce qu'il faut. Hein. Choisir les vins, penser au dance floor et à l'incontournable DJ. « Je connais quelqu'un !» proposera un copain. « Ah, tant mieux, parce que pour moi, le traiteur, pas de problème, mais le DJ, là, c'est plus complexe !» fera remarquer Philippe en rigolant presque bêtement.
Auparavant, bien sûr, il y aura eu la cérémonie religieuse, interminable, et son chanteur habité. Les moins fervents se seront souvenus en se marrant de Patrick Bouchité et de sa guitare,
puis le vin d'honneur à la salle des fêtes, un peu miteuse d'ailleurs pour le tout venant, ricanera l'oncle Raymond, toujours lui.
Et enfin l'extase de la famille Gosselin, découvrant la pelouse, les barnums, la dizaine de serveurs et la grande maison au fond du parc.
Et Sylvie, de glisser à l'oreille de son mari, toute sa fierté d'être la mère de Lucas à cet instant-là.
À la table des mariés, à la droite d'Audrey, il y a Marc, témoin de Lucas. Menton carré, coiffure virile, sourire félin. De l'autre côté, près de Lucas, Hélène. Et puis les parents, frères et sœurs des mariés, les compagnes, les compagnons des uns des autres. Aux tables voisines, les oncles, les tantes, Kevin et Loris. Les deux copains pompiers intimidés et enfin d'autres amis d'Audrey, étudiants. Jeune diplômé en chemise blanche, blazer, mocassin, élégant.
Après le vin d'honneur, puis l'apéritif interminable de la fin d'après-midi, l'alcool commence à faire tourner les têtes. On dénoue les cravates, on tombe les vestes, il y a de la rigolade dans la griserie. On déconne et on fait connaissance.
Audrey est sur un nuage. De temps en temps, sous la table, elle glisse sa main dans la large main de Lucas. Le monde et les cris s'effacent autour d'eux. Elle a envie de son grand corps, de sa douceur et de sa force. Ils se regardent et se sourient. « Comme ils sont mignons !» crie quelqu'un. Ça parle fort, les conversations s'entremêlent. Incendie, inondation, business, immobilier. Philippe brille, Françoise volubile. Sylvie est heureuse et regarde son fils, puis son mari. Ils ne disent rien. Écoute, observe, sont au spectacle. On réclame pour la énième fois le récit de la rencontre et le décès de Madame Mougeot.
On se marre. Et Marc, le témoin, propose à Paul, le frère aîné d'Audrey, de lui raconter la fameuse soirée d'enterrement de vie de garçon de Lucas, avec Kevin et Loris et Leïla, la jeune pompière d'une vingtaine d'années, une nouvelle recrue bien mignonne. Il explique ça en se servant un verre, puis un autre, puis un autre. Paul ne répond pas, hésite à montrer son peu d'intérêt pour le sujet et se contente de hocher la tête, de jeter un regard vers sa femme de l'autre côté de la table afin peut-être d'y trouver un soutien.
Marc parle de plus en plus fort, de plus en plus près de Paul, pénétrant en quelque sorte dans sa zone privée. Paul tente de s'écarter de lui, ne dit toujours rien, l'autre insiste. Et plus il parle, plus le silence se fait autour de lui, puis gagne les tables voisines. Il ne semble pas conscient de son nouveau statut. On comprend alors que cet enterrement de vie de garçon a été mené à la hussarde, en bonne et due forme, semble-t-il.
On comprend aussi que cette cérémonie a surtout consisté en un bizutage en règle de la jeune Leïla. Normal, hein, c'est toujours comme ça pour les bleubites. On est tous passés par là, faut pas croire, hein, chez les pompiers comme ailleurs. Hein. Et c'est pas parce que c'est une fille hein, que vous voyez ce que je veux dire. Il rigole. Hein. Ouais.
Lucas ne dit rien. Il est mal à l'aise. Marc, les joues rouges et la voix forte, encore enflammée par le souvenir de cette soirée, précise. Mais attention, hein, Leïla, elle était d'accord. Évidemment, au début, elle était pas trop joie, c'est sûr, mais bon, c'était qu'un jeu. Elle le savait bien, et avec deux ou trois petits verres, c'est passé facile. On n'a même pas eu à l'aider à se foutre à poil. Et puis, des bizutages, il y en a des bien pires, hein. Tout le monde le sait. Et nous, on n'était que quatre parce que des fois, faut voir.
Les fourchettes restent en l'air. Les sourires se figent ou se transforment en rictus. Même les gosses ont cessé de courir autour des tables et d'énerver les vieux, comme les mouches avec les vaches.
Dans la tête d'Audrey, rien. Un vide, sidéral. Elle ne regarde pas Lucas.
À la table voisine, Kevin et Loris ont les yeux dans leur assiette. Avec son couteau, Loris fait un petit tas de miettes, méticuleux. Autour d'eux, pas un geste, pas une parole.
Paul cherche quelque chose à dire, un truc intelligent ou un bon mot, façon d'alléger l'atmosphère, on le voit bien, mais rien ne lui vient, à part cet air dubitatif presque niais, sur lequel l'autre ne va pas hésiter à s'appuyer.
Ben quoi ? T'as jamais participé à un bizutage, peut-être ?
Non.
Ben dommage pour toi.
Un silence rompu calmement par Hélène,
Tu nous racontes quoi, là, Marc ?
Ben quoi ? Y a pas de mal. C'était juste pour se marrer. Et Lucas, c'était pas le dernier, hein ? Lucas, ah ça, il en a profité à fond de son enterrement de vie de garçon. À fond. Et il a bien fait parce que maintenant, Tintin. Tintin.
Marc, ta gueule ! C'est Sandra, l'une des jeunes sœurs de Lucas, debout, main appuyée sur la table, tendue en avant.
Elle est quoi ? C'est pas grave. Et toi, Sandra ? T'es quand même pas la dernière, hein ?
Tente encore Marc avec une espèce de clin d'œil. Cette fois, c'est Lucas qui l'interrompt, les mâchoires serrées et la voix qui essaye d'être forte. C'est bon, Marc, on a compris.
Marc regarde autour de lui, constate le silence et toutes les têtes tournées vers lui. Se tait, se rassoit maladroitement, l'œil un peu vague et se resserre un verre.
Bien, bien, dit Philippe Delannoy. C'est le père, le maître de cérémonie, et c'est donc à lui de reprendre la main. Marc, vous avez certainement trop bu. On ne va pas insister avec cette histoire, n'est-ce pas ? Mais plutôt poursuivre cette belle fête.
Mais l'oncle Charles, frère aîné de Philippe et président du consortium immobilier de Lannoy Frères de la table voisine.
C'est vrai, il a raison le témoin, on se détend. C'est quand même pas dramatique. Et surtout, il ne faut jamais oublier une chose. Ceux qui prennent un maximum de risques pour sauver nos vies, chaque jour que Dieu fait, ceux qui sont là, répondent toujours présents, ce sont bien les pompiers, faut pas l'oublier quand même.
Putain, mais on est où, là ? Hurle l'autre sœur de Lucas. Enfin, voyons, Laurine, ose Sylvie.
À côté d'elle, Jackie semble tétanisée. Soudain, Philippe se lève d'un bond, sourire forcé, et claque dans ses mains.
Allez, bon, allez, je propose que nous lancions la musique, hein, et que nos tourtereaux ouvrent le bal.
Et l'oncle Raymond d'ajouter.
Mais oui, c'est vrai, on va pas en chier une pendule, merde alors, c'est la vie quoi. Et ça en mettra ta pompière, hein, et toutes ces conneries, c'est quand même moins grave que s'il avait plu, hein. Oh non, alors.
Turning into whoever's on the other side.
sont les nouvelles sur RCN.
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Pour entamer cette rubrique à Brac, nous allons revenir sur Benoît Fourchard parce qu'il est également comédien, metteur en scène à la compagnie Les Fruits du Hasard et à ce titre, co-organisateur du festival 12 000 signes, lors duquel des lectures sont proposées sur Nancy et son agglo. Régis Geoffrey, qui a reçu le Goncourt de la Nouvelle en 2018, sera le parrain de cette cinquième édition du Festival de la Nouvelle. Un festival qui commencera le 30 octobre en direction d'un public enfant et famille jusqu'au 3 novembre et se poursuivra pour un public adulte jusqu'au 10 novembre. Le programme est trop riche pour que je le détaille ici, je préciserai seulement les quatre dernières soirées. Le 7 à la Douaira, le 8 au Goethe-Institut, le 9 un banquet littéraire et musical à la MJC Lillebonne et le 10 au Théâtre du LEM Grand-Rue. Toutes ces lectures sont assurées par des comédiens et comédiennes professionnels accompagnés par des musiciens et musiciennes professionnels. Un festival gratuit, mais il est préférable de réserver. Pour toutes les informations, je vous conseille de vous rendre sur le site lesfruitsduhasard.com où le programme et les informations pratiques seront mises en ligne très prochainement. Si ce festival vous intéresse, je vous invite à écouter en podcast l'émission Les Plumes du jeudi 10 octobre où Mona interviewait Benoît Fourchard. Avant de rendre l'antenne, nous vous donnons rendez-vous au mois prochain.
À bientôt tout le monde.
Au revoir.